Bonjour et bienvenue dans le magazine d'actualité de Radio Mont-Pays, un magazine spécial élection municipale. Radio Mont-Pays a en effet choisi de consacrer toute une série d'émissions aux propositions et programmes des différents candidats présents à l'occasion de ces élections municipales qui se tiendront, je vous le rappelle, les 23 et 27 mars. J'ai à mes côtés pour animer, co-animer ces entretiens, Jean-Claude Catala. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Sébastien.
Alors nous recevons aujourd'hui sur l'antenne de Radio Mont-Pays Sandra Torremocha et Antoine Missier. Vous êtes tous les deux. Donc Sandra Torremocha, vous êtes tête de liste donc de Lutte Ouvrière.
Bonjour.
Bonjour. Antoine Missier. Alors, dites-nous, Sandra ou Antoine, ce qui vous a motivé à présenter une liste à l'occasion de ces élections municipales.
Mais on tenait à ce que dans ces élections municipales, la voix des travailleurs se fasse entendre. Voilà, on se présente pour faire entendre le camp des travailleurs.
C'est d'ailleurs l'intitulé de le nom de votre liste.
C'est
faire
ça.
Entendre le camp. Alors, parmi toutes les autres listes, franchement, vous pensez que personne n'est susceptible de représenter le camp des travailleurs ou des salariés ?
Mais on pense que, bon, si on est plusieurs listes à dire des choses semblables, tant mieux. Mais en tout cas, nous, on tient absolument à être présents pour mettre en avant les intérêts vitaux du monde du travail. Par exemple, l'interdiction des licenciements. Oui. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont en parler. Moi, je pense que c'est d'une actualité extrême aujourd'hui parce que on voit Sanofi, 3 milliards d'euros de bénéfices, qui licencie, et à l'exemple de ce qui se fait dans d'autres entreprises plus petites ou tout aussi grandes. Donc aujourd'hui, c'est une nécessité vitale de faire entendre cette dénonciation de la situation qui est faite aux travailleurs.
Pour rester un petit peu sur la question que vient de poser Jean-Claude, vous avez été sollicité par le Front de Gauche pour représenter, faire une liste commune. Le Front de Gauche avait aussi sollicité le NPA, Europe Écologie Les Verts. Il semblerait que personne n'ait accepté, en tout cas, l'idée de cette alliance. Pourquoi ce refus de votre part ? Et est-ce que ce n'est pas un problème de disperser autant de voix à gauche, surtout sur des... Pour certains, dont le discours quand même se ressemble.
Alors c'est vrai que depuis le début, pour nous, c'était très clair qu'on ne cherchait pas à faire de liste commune avec d'autres à la gauche de la gauche, hein, comme souvent on les dénomine. Voilà. D'abord parce que justement, moi, ces critères gauche-droite, je crois qu'aujourd'hui, ils sont plus tellement d'actualité, hein, parce que la gauche qui est au pouvoir, elle mène une politique de droite. Donc aujourd'hui, pour moi, ce qui compte, c'est le camp, en fait, qui est défendu. Le camp des travailleurs d'un côté et le camp, la bourgeoisie, du patronat de l'autre. Et aujourd'hui, la gauche, elle sert les intérêts du grand patronat. On voit bien que Hollande, c'est le président des patrons. Il le proclame d'ailleurs assez fièrement. Essayer de vouloir pousser Hollande à gauche, c'est semer des illusions parce que le véritable pouvoir, les ficelles, elles sont tirées par les grandes entreprises. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut être très très clair. Et donc nous, on se présente pour que y ait une opposition ouvrière très claire à ce gouvernement, donc soi-disant de gauche et au patronat, pour pas laisser en gros le monopole de l'opposition à la droite ou à l'extrême droite.
Antoine Missier, vous voulez rajouter quelque chose?
J'ajouterai une petite chose. Quand on pose la question à Jean-Luc Mélenchon, par exemple, est-ce que vous êtes dans l'opposition au gouvernement ? Il ne répondra pas oui. Il répond de façon ambiguë. Il n'a jamais répondu oui. Il n'accepte pas de répondre oui à cette question. Nous, on est dans l'opposition au gouvernement. On est dans l'opposition à la politique qui est menée. Et on ne pense pas qu'avec un score électoral quelconque, même à 20%, même si Mélenchon faisait 20%, de croire que ça suffirait pour infléchir la politique du Parti Socialiste sur sa gauche, ça, on pense que c'est une illusion. Et on ne veut pas la propager, la partager, la laisser supposer. Nous, notre programme, comme a commencé à l'expliquer Sandra, c'est un programme de lutte. Bien sûr, aujourd'hui, vous allez me dire, il n'y a pas trop de lutte, mais on espère que tôt ou tard, il y en aura, et que les travailleurs s'en empareront, et qu'ils défendront ce programme-là, et qu'ils compteront sur eux-mêmes, avant de compter sur des élections, et sur un sauveur suprême. Hein, comme le dit le champ à l'international, il n'y a pas de sauveur suprême, et les élections peuvent laisser penser qu'avec des scores, on va réussir à, etc. Non, on ne réussira à rien du tout, on s'exprime. C'est ça le but de l'élection, et c'est dans ce but que l'on se présente.
Les élections municipales, c'est aussi pour parler de la vie quotidienne des gens qui habitent une cité. C'est la politis, la gestion de la cité. Lorsque vous vous présentez comme ça aux élections municipales sans avoir d'idée pour la gestion de la commune, est-ce que vous êtes encore dans la politis, la politique ?
Oui, on a plein d'idées pour la commune. D'ailleurs, on a des camarades qui sont élus.
Alors, on va vous écouter parce que nous, on a été un petit peu un défaut pour trouver les idées pour la commune. Alors, vous allez pouvoir sur les différentes thématiques relevant des compétences des communes.
Oui.
Transport, urbanisme.
Bien sûr, bien
sûr. Alors, c'est très bien.
Mais bien sûr, on est par exemple pour la gratuité des transports. Ça va de soi. Mais c'est pas sur ça qu'on veut discuter aujourd'hui. Parce que c'est pas ça l'essentiel des préoccupations des travailleurs. Parce que aujourd'hui, ce qui conditionne tout le reste, ce qui conditionne le logement, ce qui conditionne le transport, ce qui conditionne toutes les conditions de vie, c'est est-ce qu'on a un emploi ? Est-ce qu'on a un salaire ? Est-ce qu'on a un pouvoir d'achat qui permet de mener une vie correcte ? Et aujourd'hui, malheureusement, la réponse pour beaucoup de gens, c'est non. On voit que le chômage a encore augmenté, c'est les chiffres récents qui le montrent, y compris en Haute-Garonne, il y a plus de 100 000 personnes qui sont au chômage, c'est inadmissible, alors que du travail, il y en a par-dessus la tête, puisque ceux qui en ont, on leur demande de faire de plus en plus de choses, de travailler toujours plus. Et d'un autre côté, il y a ceux qui ont un salaire, mais pour qui, malgré tout, la fin du mois, c'est le 15. Donc le problème, c'est ça, c'est les salaires, c'est avoir un travail, et c'est de ça que nous, on veut discuter, parce que c'est de ça, en fait, dont discutent les travailleurs, la population laborieuse, quand on discute avec les gens. Bien sûr, les problèmes locaux, ils ont un avis, mais ce qui est tout de suite préoccupant, c'est comment je fais pour payer la facture à la fin du mois, mon gosse, il ne trouve pas de travail, il n'est pas prêt d'en trouver... J'ai 50 ans, j'ai été virée, qu'est-ce que je vais devenir ? Et je pense, ce sur quoi les gens ont envie de s'exprimer. Donc on veut leur donner la possibilité, aux travailleurs, de s'exprimer sur ces questions-là.
Alors, vous parlez emploi, mais dans les compétences des municipalités, il y a le développement économique. Donc elles interviennent dans le domaine de l'emploi, sur l'accueil des entreprises, déjà en tant qu'employeur.
En tant qu'employeur.
Déjà en tant qu'employeur, les communes sont employeurs, et puis Toulouse, il y a quand même un certain nombre de salariés. D'ailleurs, j'ai tout un tas de petites questions là, qui m'ont été suggérées par une organisation syndicale. Je ne sais pas si vous êtes à même d'y répondre, ou d'essayer d'y répondre, en tout cas en vous situant dans le cadre où vous seriez futur employeur. Mais ma question, c'est, voilà, dans le cadre du développement économique... la question de l'emploi est au centre aussi des compétences de la municipalité, sur l'accueil des entreprises par exemple. Donc s'occuper de la municipalité, c'est s'occuper aussi de l'emploi à Toulouse.
Tout à fait. Et c'est vrai que souvent on entend le discours accueillir les entreprises, aider les entreprises, comme si c'était les entreprises qui créaient de l'emploi. Et bien ça, moi j'en ai marre de l'entendre, parce qu'aujourd'hui elles ne créent pas de l'emploi, elles licencient. Aujourd'hui, c'est à tous les niveaux. La mairie, le conseil général, la région, et ne parlons pas du gouvernement, c'est à coup de milliards. On a des cadeaux qui sont faits aux grandes entreprises sous couvert de créer de l'emploi. Et à chaque fois, c'est la même solution qu'on nous propose. Oui, 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 pour créer de l'emploi, il faut aider les entreprises, accueillir les entreprises. Donc ça, non, ça suffit. Les cadeaux sans contrepartie au patronat. Là, il y a l'exemple des 30 milliards qui ont été accordés gracieusement au grand patronat par le gouvernement. Ben voilà, ça, il faut l'arrêter tout de suite.
Alors, sans contrepartie, ça veut dire que finalement, bon, sur le principe des aides à l'installation publique des entreprises... Ça peut se faire, mais il faut qu'il y ait des contreparties.
Non, il n'y a pas besoin de le faire. Il faudrait regarder les livres de compte. On verrait bien que les entreprises, elles ont plein de ronds. Elles ont, même si elles sont des sous-traitantes, il y a des donneurs d'ordre qui sont pleins aux as. Toulouse, on a vu, par exemple, l'entreprise qui était d'abord Motorola, qui est passée Freescale, qui a perçu des tonnes de subventions. Et voilà, ça a été à fond perdu. Et maintenant, l'entreprise, elle est fermée. Et les salariés sont sur le carreau. Bon,
c'est un contexte de mondialisation. On sait très bien que les États, dans ce genre de situation-là, et poussés donc par ces multinationales, se font concurrence. Où on voit d'ailleurs un dumping social de plus en plus fort, et d'ailleurs devenir de plus en plus présent ici en France. Donc est-ce que ce contexte-là de mondialisation, vous le prenez en compte ?
Si vous permettez, Antoine ici. Oui. Et je vais vous prendre un exemple, les autoroutes, par exemple. Je ne vois pas en quoi le contexte de mondialisation, il oblige les États à céder au privé la gestion des autoroutes. On voit que Vinci, par exemple, pour Toulouse, qui a augmenté ses tarifs d'abonnement de manière importante là cette année, on voit que les ASF, c'est des sociétés pleins aux as, comme l'a dit Sandra, qui rackettent les automobilistes en permanence. Pourquoi ça ne pourrait pas être un service public, les autoroutes ? La SNCF, à une époque, c'était un service public. Au nom de quoi ? Pourquoi il faudrait céder à soi-disant des directives ? En réalité, ils ne cèdent pas à l'Europe. C'est un choix politique qui est assumé. par nos responsables politiques. C'est pas, ils sont pas victimes des choix européens comme on nous le présente parfois. Ils l'assument et ils l'assument totalement. Ils ont privatisé depuis des années les transports à tous les niveaux. Hein, au niveau national, au niveau, et ils acceptent ça. Malvi, ils acceptent ce jeu de subventions. Alors en même temps, évidemment, au niveau d'une région, ils sont peut-être coincés. Mais si on raisonne à ce niveau-là, on sera coincé. Justement, c'est pour ça, et je reviens un petit peu sur votre question précédente, qu'on veut pas nous raisonner à ce niveau-là. D'abord, très franchement, parce qu'on sera pas en position de diriger la ville, et on veut pas assumer cette illusion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on demande aux Toulousains de faire un choix politique, de s'exprimer. Bon, pas, bien sûr, vous allez me dire, on vote pour un maire, mais on vote pas seulement pour un maire, on vote aussi pour des partis. Et le soir de l'élection, il y aura aussi une interprétation et un décryptage politique du scrutin. Qui a gagné l'élection? Le Front National, la gauche, la droite, c'est en ces termes-là aussi que ça sera discuté. Et c'est dans ces termes-là que nous, on pense qu'il faut les sanctionner tous, parce que ce sont des partis du système, des partis de la bourgeoisie. C'est en ce sens. Et beaucoup de travailleurs feront sans doute le choix de toute façon, ça sert à rien, ça changera pas la vie, bien sûr. Et nous, on va pas leur faire croire que ça va changer quelque chose. Nous, on veut leur faire un choix politique, hein, de sanctionner très clairement les politiques qui ont été menées et qui sont encore menées par les pouvoirs en place.
Vous êtes sur votre protestataire.
Alors, c'est un vote qui permet...
Si je vous entends, oui.
C'est, bien sûr, c'est une façon de protester, de dire une indignation, un écœurement, mais c'est aussi une façon de préparer l'avenir. Parce que c'est une façon de se compter et de dire, parmi les travailleurs, il y en a certes une minorité, mais il y en a qui veulent relever la tête et dire pas question de laisser faire, pas question qu'on paye la crise. Et c'est une façon de le dire, et c'est la première des choses à faire quand on veut... contester la situation. Et ensuite, sur les services publics, parce que c'était la question aussi tout à l'heure.
Voilà, employeur. Je peux vous les détailler, si vous voulez.
Donc, là aussi, c'est sûr qu'on voit le problème qui se pose au niveau local. C'est que il y a de moins en moins de budget qui est donné par l'État pour les collectivités locales. Et donc, là encore, c'est restrictions budgétaires. À chaque fois, c'est que ce terme-là. C'est-à-dire, on est dans une société riche, dans un pays riche, au 21e siècle, et on nous parle uniquement d'économie, de se serrer la ceinture, de misère, de sacrifice, alors que de l'autre côté, on voit que les plus riches, ils ont vu leur fortune augmenter de 10 à 15% par an. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dont le salaire a augmenté de 10 à 15% l'année dernière? Moi, personne. Alors, de l'argent, il y en a.
Un grand patron, oui.
Voilà, mais j'en connais pas. Donc, voilà, le problème, il est là. C'est qu'il faut arriver à prendre l'argent là où il est pour faire en sorte que, bien sûr, il y ait beaucoup plus de services publics. Alors, à tous les niveaux, là aussi, c'est pas qu'au niveau local. C'est aussi, bien sûr, au niveau national.
Oui. Je reviens sur votre mot, votre protestataire. Ça me fait un peu sourire. C'est pas faux, en soi. Mais votre protestataire, ça sous-entend aussi vote inutile, vote perdu, etc. Alors, c'est quoi le vote utile? Le vote utile, on nous a déjà fait le coup plein de fois. Et en particulier, les partis de gauche, même le Parti communiste. Le vote utile, faut voter pour la gauche, contre la droite, parce que, etc. Ça, c'est une blague. Il n'y a pas de vote utile. On vote pour des convictions, on s'exprime, et c'est en ce sens que, on peut dire que c'est un vote protestataire, mais pour nous, c'est un vote utile, c'est un vote utile pour l'avenir. Ça montre combien on est à avoir aucune illusion dans le système électoral, dans le système institutionnel actuel, et dans le système, disons, capitaliste, cette économie malade, profondément malade, qui pompe en permanence le travail des salariés, les résultats, le profit qui devrait revenir aux salariés, ben non, ça revient aux actionnaires. Donc c'est utile, c'est une expression politique.
Alors sur le vote, j'ai bien compris que vous n'arriviez pas là, vous ne pensiez pas être présent au deuxième tour, si j'ai bien compris, puisque votre choix c'est d'être au premier tour et donc de, vous me dites si je me trompais, et permettre aux salariés, aux travailleurs de se compter, quoi, ceux qui ne sont pas satisfaits.
Pour l'instant vous êtes crédité de 1% dans le sondage qui est paru le 25 février, aux dernières élections municipales, donc il y a 6 ans, la liste Lutte Ouvrière avait obtenu 0,83%, voilà, c'était pour préciser.
Bon, donc ma question c'est finalement, donc pour vous, au deuxième tour, on va s'en tenir au sondage, puisqu'on parlait du sondage, au deuxième tour, il resterait en lice deux candidats. Pour vous, Pierre Cohen, Jean-Luc Moudenc, Bonnet Blanc, Blanc Bonnet?
Il faudra voir la situation au soir du 23 mars, et puis on verra à ce moment-là.
C'est-à-dire, oui. Quelles seront les propositions qu'ils feront le soir du 23 mars? Ah non, vous, alors
non,
vous
me dites, de voir le résultat. Mais bien sûr, il faut voir le résultat, il faut voir exactement le sondage grandeur nature qui aura lieu que le 23 mars.
Le vrai, pour le coup.
Voilà. Et à partir de là,
Non, mais je ne vous demande pas de vous prononcer aujourd'hui sur le deuxième tour. Je vous demande simplement si vous jugez que Pierre Cohen et Jean-Luc Moudenc sont exactement les mêmes hommes pour la même politique.
Donc, il y en a un qui est au Parti Socialiste, l'autre qui représente l'UMP. Donc, forcément, c'est voilà, des représentants des deux grands partis. Ceci dit, moi, le système à l'américaine où, justement, il n'y a que les deux grands partis, je trouve pas que ça soit très démocratique. Donc, justement, c'est le premier tour qui compte parce que c'est là où on a vraiment le choix.
D'accord. On marque une petite pause musicale et puis on continue à converser avec vous.
Passer la frontière sans encombre, retrouver ma chérie, voir l'herbe grasse sous les décombres et croire en l'avenir même quand tout est bel et bien fini. Nous nous sommes quittés au mois de septembre en se disant que c'était mieux, qu'il fallait s'arrêter sans plus attendre et se résoudre aux adieux. J'ai pris la route dans l'espoir de perdre les démons qui me gouvernent, et je suis parti vivre pauvre et solitaire sur les montagnes d'Auvergne. Passer la frontière sans encombre, retrouver ma chérie, voir l'herbe grasse sous les décombres et croire en l'avenir même quand tout est bel et bien fini. L'hiver est rude et de mauvaise volonté, rongeant les fruits de mon travail. J'ai tenté d'y croire, j'ai voulu résister, mais je n'étais pas de taille. J'ai descendu le fleuve pour atteindre la mer et m'engager dans la marine. J'ai soigné ma douleur dans les vapeurs de l'éther sur un pétrolier en ruine. Passer la frontière sans encombre, retrouver ma chérie, voir l'herbe grasse sous les décombres et croire en l'avenir même quand tout est bel et bien. Regardais le large, récitais mes prières, je laissais passer le temps. Mais il m'aurait fallu plus d'une vie entière pour t'oublier même un instant. Malgré les efforts, j'ai gardé des séquelles, ce sont des choses qui arrivent. Je vais devoir attendre que la rivière gèle pour te rejoindre sur l'autre rive. J'aimerais passer la frontière sans encombre, remonter vers le nord, voir l'herbe grasse sous les décombres et croire en l'avenir, oui, croire en l'avenir.
Vous écoutez le magazine d'actualité de Radio Mon Pays, un magazine spécial élection municipale, et nous recevons aujourd'hui Sandra Torremecha et Antoine Missier, tous les deux donc représentants de la liste Lutte Ouvrière, présents donc pour ce premier tour aux élections municipales.
Alors en tant que futur employeur, bon, en tout cas, vous parlez beaucoup des travailleurs. Moi, j'ai des questions qui sont posées par les employés de la ville de Toulouse, les travailleurs, on va dire, de la ville de Toulouse, c'est un terme qui vous est cher. Voilà, ils posaient notamment des questions auxquelles vous n'aurez, je pense, pas beaucoup de difficultés à répondre. On va voir. Il posait une question: remunicipalisation de l'eau et des parkings. Quel est votre avis?
Évidemment, oui.
Voilà, c'est ce que je disais. Oui.
Quel avantage ça peut avoir à vos yeux, justement, une remunicipalisation de
C'est dur à dire
l'eau.
Ça.
Oui.
Ben, y a aucune raison que des entreprises privées, là encore, empochent, enfin raquettent, parce que ce n'est pas autre chose, que ce soit pour l'eau ou pour les parkings d'ailleurs, hein, même si ce n'est pas les mêmes entreprises, mais c'est le même principe. Donc la population, parce que, bon, mais surtout pour l'eau d'ailleurs, hein, c'est un besoin absolument vital et c'est absolument illogique. Et ça montre un peu comment fonctionne toute la société capitaliste, où c'est le profit, en fait, qui est le moteur de l'économie. Et voilà, moi, je suis communiste, et ça, je le dénonce et je le combats.
Ça, par exemple, vous partagez avec toutes les listes de... Oui. À gauche, de la gauche, je
dirais. Bien sûr, bien sûr. Mais un autre exemple, c'est que les associations d'usagers de l'eau, ou les magazines comme UFC Que Choisir, ont dénoncé depuis déjà des années les surfacturations, l'opacité, surtout, de la facturation qui existe dans ces marchés publics. L'eau, c'est un exemple emblématique, puisque c'est deux ou trois, disons, grandes multinationales. La troisième, c'est la SOR, l'ex-Vivendi, maintenant Veolia, qui contrôle, et puis Suez, qui contrôle le marché de l'eau et qui se font des surprofits colossaux. Donc il n'y a aucune raison de faire ces surprofits.
Mais il faut préciser quand même que Pierre Cohen, à la précédente élection, dans son programme, il avait justement l'intention de passer en régie. Or, pendant la durée de son mandat, il ne l'a pas fait pour des raisons apparemment de risque de pénalité.
De contrat. Il y a un contrat qui court et avec des pénalités si on rompt le contrat avant le terme qui aurait coûté plus cher aux Toulousains finalement que si on était passé en régie.
Bon. Comme quoi les capitalistes ficellent bien leurs affaires et il faudrait vraiment mettre notre nez dans leur façon de conclure tous ces contrats parce que c'est toujours au détriment des usagers et des travailleurs.
De toute manière, il y a des années qu'il y a une très grande complicité entre la gauche et la droite. Ce sont y compris des élus de gauche en région parisienne qui ont redonné un contrat historique à Veolia l'année dernière ou il y a deux ans sur les 144 communes de l'Île-de-France. C'est leur plus gros contrat mondial, je crois, à Veolia, avec des élus du PC y compris. Enfin, c'était un bulletin secret, Santini qui dirige tout ça d'une main de maître. Bon, alors bulletin secret, mais enfin, en faisant le compte, c'était clair qu'il y avait, une partie de la ceinture, y compris rouge, comme on dit, de la région parisienne qui a voté. Il y a des relations d'intérêts diverses. Mais en tout cas, c'est au niveau national qu'il faut revoir tout ça. Les petits maires, souvent, ils sont coincés, surtout les petits maires. Bon, une ville comme Toulouse a des moyens. Les petits maires, ils sont coincés, mais surtout l'État a supprimé des moyens techniques qui étaient fournis aussi aux communes pour les accompagner, des ingénieurs, des techniciens, etc., pour les accompagner dans les services de l'eau. Ben maintenant, ils poussent, l'État y compris, pousse à la privatisation, donc aide les grandes sociétés privées.
Vous nous direz tout à l'heure ce que vous pensez de la décentralisation, puisque là, vous abordez un petit peu là, en disant que l'État avait transféré une certaine partie des compétences et des charges donc aux communes.
On parlera de l'acte 3 de la décentralisation et la métropolisation. Est-ce que ça va changer? Je crois que tu voulais
continuer. Oui, la petite enfance. Donc toujours les salariés de la ville de Toulouse qui interrogent sur la petite enfance. Les travailleurs, ils ont besoin qu'on garde leurs enfants pour aller travailler. Alors les projets, renforcement, création de crèches, comment mieux prendre en compte les besoins? Vous jugez que ce qui se fait, c'est un peu mieux que ce qui se faisait avant? Vous feriez davantage? Que vous avez des idées sur l'accueil de la jeune enfance?
Oui, bien sûr. Ben, là aussi, il faut prendre en compte les nécessités des salariés. Effectivement, le besoin en crèche dans la ville de Toulouse ou de mode de garde est évident. Donc ça, c'est un constat que tout le monde peut faire. Mais moi, je pense vraiment que, justement, sur cette élection, nous, ce qu'on propose en se présentant, c'est de faire entendre vraiment une dénonciation de la politique du gouvernement au service du patronat. C'est-à-dire que, bien sûr, tous ces problèmes-là, ils sont importants. Mais en votant...
C'est le quotidien des gens aussi, très pratique, quoi, je dirais.
Bien sûr, mais justement, en votant pour la liste lutte ouvrière, c'est une façon de dire qu'on voit bien que tout ça, c'est des choix politiques beaucoup plus profonds. C'est-à-dire que c'est un fonctionnement, y compris de la société, qui ne va pas. Donc, si on parle de la petite enfance ou même des enfants, bon, c'est le problème, moi, aujourd'hui, que je vois, c'est l'avenir. L'avenir qui est réservé aux jeunes générations. Aujourd'hui, c'est le chômage. Aujourd'hui, l'éducation, elle est de plus en plus délabrée. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de perspective. Donc, ce qu'il faut dénoncer, c'est justement cette façon de gérer à complètement court terme et puis sans vraiment remettre en cause fondamentalement le système capitaliste. Moi, je pense vraiment que le sens d'un vote lutte ouvrière, c'est à ce niveau-là.
Oui, et puis je rajouterais, on ne changera pas grand-chose au niveau d'une mairie. Enfin, je veux dire, on, c'est pas nous du tout, parce qu'on ne sera pas au deuxième tour. Ça, on n'a pas cette illusion, mais les choses ne changeront pas par une élection d'un tel ou un tel. Hein. Ça, sur ces questions-là, ce sera des changements mineurs. Hein. On peut discuter de l'argent des trottoirs à Toulouse, mais enfin bon, c'est quand même des choses qui sont, et pour nous, dans cette élection, là, c'est des choses mineures. L'axe de notre campagne, des choses sur lesquelles on souhaite que les Toulousains se prononcent, c'est ce qu'a dit Sandra. C'est un programme plus général, un programme de lutte, un programme de défiance du travail vis-à-vis du capitalisme.
De la sortie du capitalisme. Et ça prendrait quelle forme, cette sortie du capitalisme, pour vous? Parce que allons jusqu'au bout, puisque bon, on parle d'aspects assez généraux là. Donc ça prendrait quelle forme, concrètement, sur le plan même des institutions? Quelle forme prendrait la sortie du capitalisme pour lutte ouvrière?
Ah ben, il y a quelques exemples dans l'histoire du mouvement ouvrier, de mobilisation des travailleurs. Hein. Je pense que si on arrive à refaire juin 36, grève générale, occupation des usines, voilà.
Ça, c'est le mouvement syndical qui peut évidemment apporter ça aussi. C'est...
Bien sûr, ben oui, de toute façon, la politique, c'est la prolongation de l'implication des travailleurs dans leur vie professionnel justement, mais élargi à toute la sphère de la cité dont vous parliez tout à l'heure. Donc, bien sûr, ça veut dire une démocratie ouvrière, ça veut dire les élus révocables à tout instant, ça veut dire, même on peut penser à la Commune de Paris, 1871, donc il y a des exemples.
Il y a la Révolution russe de 1917, nous ça reste notre exemple, ça ne veut pas dire que tout s'est bien passé, au contraire, là-bas ça s'est mal passé, ça a mal tourné,
ça a mal fini,
mais la Révolution et ses objectifs, nous on les partage, on est d'accord avec ça, la sortie du capitalisme ça se fera par une révolution, d'ailleurs beaucoup de gens nous le disent, il faudrait une révolution, ça ne se fera pas par les élections, ça ne s'est jamais fait par une élection, les grands changements ne se sont jamais faits par des élections. Bon,
des élections au suivi.
Oui, 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 oui. Par exemple,
les grands changements qu'on observe aujourd'hui dans le monde.
On parlait de 36, c'est un exemple où les élections ont effectivement suivi la mobilisation. Elles ont accompagné, mais en réalité, c'est la mobilisation qui était là pour impulser le changement. Et ça, bon, après les élections, ça c'est Marx qui disait, le droit ne fait finalement que toujours entériner l'état de fait. Bon, c'est pas lui qui précède. Et les changements, ils se font parce que les gens acceptent plus la société dans laquelle on vit. Alors, je vais vous dire, les formes précises d'un changement de société future, elles sont pas écrites en réalité. L'histoire n'est pas écrite. Les révolutionnaires ont tout dans le ont toujours fait que essayer d'improviser en fonction d'objectifs qu'ils avaient. Mais nous, l'objectif, c'est quand même la suppression du profit privé des grandes entreprises capitalistes. Ça, c'est pas légitime, ce profit-là. On voit ce que ça donne. Ça donne la spéculation, ça donne un système complètement absurde où finalement on travaille toujours plus, le travailleur est toujours moins payé. Et à l'autre pôle de la société, un enrichissement colossal.
Ça, c'est sur le plan...
C'est l'idée générale, oui.
Mais sur le plan mondial aujourd'hui, on voit bien, et c'est pour aller dans votre sens, hein, mais on voit bien aujourd'hui l'importance que peuvent avoir les marchés financiers sur les États eux-mêmes. On se rend compte, évidemment, aujourd'hui, de l'impuissance que peut avoir un État comme la France, pris à la gorge par les marchés financiers, s'il fait une mauvaise politique, considéré comme les marchés financiers comme une mauvaise politique, les taux de la dette montent et c'est l'effondrement, là, pour le coup, de l'État. Donc, on voit bien qu'on est quand même dans un carcan qui dépasse largement la question de l'État aujourd'hui.
Est-ce qu'on ne s'est pas mis dans ce carcan?
Oui, on s'est mis dans ce carcan. Enfin, moi non, en tout cas. Enfin, j'ai pas fait ce choix-là, mais enfin, en tout cas, il y a des gens qui l'ont fait. Moi, donc aujourd'hui, voilà, on en est là.
Alors pour moi, l'État, depuis très longtemps, c'est une béquille pour les capitalistes. C'est-à-dire que c'est un complice en réalité. C'est pas un carcan, c'est pas le pistolet sur la tempe que les capitalistes imposent à l'État de lui donner des milliards. C'est volontairement, c'est des choix politiques.
C'est les
banquiers aujourd'hui qui récupèrent le principal poste de dépense de l'État, plus de 50 milliards. Bon, ben voilà, ça c'est des choix politiques qui sont faits. C'est tout le fonctionnement de la société capitaliste, il repose sur le fait que quand l'initiative privée, elle considère, quand les entreprises, elles considèrent qu'elles font pas assez d'argent, ben à ce moment-là, elles appellent l'État. quand une entreprise est déficitaire, on se retourne vers l'État pour que, l'État renationalise, évidemment, en achetant bien cher. L'État fait le sale boulot et ensuite il revend pour une bouchée de pain à d'autres capitalistes ou les mêmes d'ailleurs. Donc non, aujourd'hui, la mondialisation, c'est un système capitaliste. La planète, elle est effectivement toute petite. Mais les quelques grands groupes capitalistes, on les a ici. Hein, Total, c'est un groupe français. Donc dénoncer la mondialisation, je pense que c'est un petit peu vague. Je préfère dénoncer les entreprises dont on connaît les sièges, hein, qui sont à la défense. On connaît les actionnaires, on connaît leurs bénéfices. Et il y a beaucoup de choses à faire ici, localement, en France.
D'accord.
Alors, on va revenir dans l'Hexagone, et plus précisément même dans le département, voire sur la ville de Toulouse. Vous disiez tout à l'heure, le souci des travailleurs aussi, c'est de se loger. La politique du logement, c'est aussi une des compétences de la ville, enfin, des municipalités. Ce qui se fait à Toulouse, il y a quand même une augmentation du taux de logements sociaux. Il semblerait qu'il y ait une politique volontariste par rapport à ce qui se faisait avant. Est-ce que ça, vous pensez que ça va dans le bon sens? Quelle est votre vision, vous, de politique de logement pour permettre à tous ces gens qui sont soit mal logement, qui sont soit en attente d'un logement, de trouver leur place dans la ville?
Mais là aussi, c'est un scandale de voir que dans la société du 21e siècle, on en est réduit à avoir un immense problème du mal logement ou du non-logement. Et là encore... La responsabilité, c'est que à chaque fois, c'est des grandes entreprises du BTP, en fait, des promoteurs immobiliers, c'est-à-dire encore des grandes entreprises qui font la pluie et le beau temps au niveau de l'économie, qui décident. Donc, elles vont construire si ça leur rapporte, si c'est rentable. Et sur le logement, il faudrait une politique nationale où l'État construise directement, sans passer par des intermédiaires privés, des centaines de milliers de logements. Il faudrait tout simplement que chacun puisse avoir un logement. Et
vous ne pensez pas que les maires, ils sont plus près quand même de leur commune, ils ont quand même plus de capacité à jauger de ce qui est utile pour leur ville, pour les besoins des salariés, des gens qui habitent dans la ville, que n'ont pas l'État. L'État peut être impulseur, mais en même temps, je crois que les maires sont quand même mieux placés.
S'il faut même faire une loi pour imposer aux maires d'avoir une certaine proportion de logements sociaux, ça dit bien ce que ça veut dire.
Ça va être augmenté d'ailleurs.
Oui, mais ça veut dire justement que c'est pas si naturel que ça et que c'est pas une préoccupation. Donc là aussi, c'est encore une fois ce que je disais sur dans quel camp on est. Le camp des travailleurs, bien sûr, ça veut dire que tout le monde a un emploi qui permet d'avoir un logement, un salaire qui permet de payer le loyer dans de bonnes conditions, évidemment. Mais ça aussi, pour l'obtenir, je pense que ça viendra pas d'en haut comme pour tout, ça sera des luttes. Et ce problème du logement, malheureusement, il est inhérent à cette société inégalitaire.
Mais Antoine Missier, vous voulez rajouter quelque chose?
Bien sûr. Regardez le nombre de chapeaux que Cécile Duflot a été obligée d'avaler déjà, hein, et ces lois qui sont retoquées régulièrement, parce que derrière, il y a le lobby des promoteurs, comme l'a dit Sandra, etc. Alors, en réalité, le maire est peut-être au plus près des besoins, il les connaît, il connaît les gens, surtout dans les toutes petites communes, il voit bien. Dans une grande commune, ils sont moins près, mais enfin, ils savent peut-être mieux. Mais c'est une chose d'être auprès des besoins, et c'est autre chose d'avoir les moyens d'y répondre. Bon, et les vrais moyens d'y répondre.
Mais déjà, avec les moyens que vous avez, on peut donner une orientation.
Bien sûr, on peut donner une orientation. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il peut y avoir des petites différences locales en fonction de la couleur politique du maire. Ça, on l'entend bien. Hein, c'est une réalité, oui, bien sûr. Mais à la marge, quand même. À la marge. Parce qu'au niveau national, la couleur politique, elle n'a rien changé de ce point de vue-là. Et c'est ça le fond du problème. Et là, ça a beaucoup plus d'incidence, d'impact. Bon. Qui décide, est-ce que c'est les promoteurs, est-ce que c'est pour les entreprises qu'on fait des terrains pas chers, etc. Et puis, est-ce qu'on fait des quartiers où on fait des zones franches pour que soi-disant les entreprises viennent, etc. Et en fait, ce sont des effets d'aubaine. Il y a toute une politique qui peut paraître parfois contradictoire entre le maire PS et le gouvernement PS, mais en réalité, ils sont dans le même parti, ils assument leur solidarité. Et bien qu'ils l'assument, hein. Et nous, on pense que ça... Il va falloir le sanctionner quand même. Même si, ici ou là, dans telle ville, il y a des petits efforts qui sont faits, ça reste dérisoire.
Il y a une dimension qui est souvent abordée à l'occasion des élections municipales, c'est la dimension écologique. Alors c'est assez transversal. Quel rapport vous avez avec l'écologie? On entend rarement, Lutou Vérière, parler d'écologie.
Alors, mais...
pour le coup, je vous coupe, oui. Sandra Tormacha, oui. Pour le coup... Le capitalisme est le responsable majeur de la crise écologique que nous vivons. Est-ce que vous n'allez pas me démentir, là?
Absolument pas, au contraire.
Donc, vous avez des choses à dire là-dessus.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est
vous avez des choses à dire.
Le principal pollueur, c'est Total. Bon, voilà, avec ça, on a tout dit. Hein, une des principales entreprises du CAC 40. Et voilà, on est bien placé à Toulouse pour savoir comment fonctionne ce grand groupe avec l'explosion d'AZF. Donc, être communiste, pour moi, ça veut dire de toute façon être... alors, ce qui aujourd'hui s'appelle écologiste, c'est-à-dire défendre les conditions de vie, c'est aussi bien sûr se préoccuper de l'environnement. Les matières premières, elles sont pas inépuisables. Et dans l'avenir, il faut, oui, bah, s'inquiéter de comment on fera pour l'énergie. Bien sûr, tout ça, ce sont des questions qui se posent, mais qui sont aujourd'hui bloquées par le capitalisme, c'est-à-dire là encore la propriété privée des moyens de production, le fait que tout ça, ça soit encore géré en termes de profit et non pas en termes de satisfaction des besoins de la population. Donc, bien sûr, des combats à mener, mais c'est pas des combats qui sont séparés du combat pour l'émancipation de la population travailleuse.
Parce que vous savez, l'écologie, sinon c'est un label, hein, c'est un affichage. Les écologistes au gouvernement, à quoi ils sont servis? Voynet elle-même, elle est allée sur les plages au moment de la catastrophe de l'Erika à dire que c'était pas une catastrophe majeure. Bon, les écologistes n'ont pas réussi à infléchir la politique, là aussi, du PS dans un sens qui soit plus respectueux de la nature. C'est d'abord les lobbies qui comptent, hein, comme pour les autres questions, comme on a discuté tout à l'heure. Mm-hmm. Pour l'eau, c'est pareil. Bon, ils se prétendent écolos et toutes ces entreprises se prétendent toutes écolos. Ça veut plus rien dire aujourd'hui. L'écologie prise comme une sorte de label comme ça. Et pour nous, on fera pas vraiment de l'écologie tant que c'est la loi du profit qui domine.
D'accord, très bien, on marque une petite pause musicale.
Entre Asnières et Aubervilliers, il y a un bistrot mal fréquenté, où que la tôlière s'appelle comme ça, la grande jauge. Elle est si grande qu'on voit ses genoux quand derrière son bar, elle est debout, mais elle est pas plus bête pour ça, la grande jauge. On lui a jamais fait la cour, on lui a jamais fait l'amour, on l'a jamais prise dans ses bras. La grande Jaja. Et Danière à Aubervilliers, les clients disent qu'il est pas né celui qui fera un enfant à la grande Jaja. Elle dit qu'elle a été mariée, on dit rien pour pas la vexer, parce que faut dire qu'elle est sympa, la grande Jaja. C'est pas qu'on soit tellement chrétien, mais dans le bistrot tout le monde l'aime bien, et y'en a pas un qui l'aime pas, la grande Jaja. Même que pour son anniversaire, on lui a pincé un peu le derrière. Elle avait jamais vécu ça, la grande Jaja. Elle a chialé dans son torchon en nous traitant de braves garçons et nous a offert le calva, la grande Jaja. Accompagnement dramatique. L'autre soir, il y a un mafioso qui a fait de la casse dans son bistrot et qui a tiré la queue au chat. Bien d'esprit, hein, celui-là, quand même. De la grande Jaja. Elle lui a dit, sans s'énerver, on ne nous a pas présenté, mon cher monsieur. Bienvenue à la grande Jaja. Elle lui a foutu son poing dans le nez. Pardon si je l'ai main mouillée, dit-elle en lui offrant le bras. Et la grande Jaja. Puis avec un coup de pied au cul, elle lui fait traverser la rue. Elle a pas peur de la mafia, la grande Jaja. Toute la journée derrière son bar, faut qu'elle se farcisse les pochards qui lui racontent n'importe quoi, la grande Jaja. Quand on lui dit bah il fait beau, elle répond bah c'est pas trop tôt, elle est pas plus compliquée que ça, la grande Jaja. Elle dit amène aux communistes, à l'UMP, aux socialistes et aux témoins de Jéhovah, la grande Jaja. Elle est d'accord sur tous les points avec tous les programmes communs, du moment qu'on l'emmerde pas, la grande Jaja. Tous les paumés, tous les clodos, tous les speedés, tous les accros, racontent leurs mésaventures, la grande Jaja. Elle les confesse attentivement, les bénit avec un coup de blanc et leur dit va en paix mon gars, la grande Jaja. Si elle vous dit que le mois dernier elle a consolé un curé, pour sûr que vous la croirez pas, et la grande Jaja. Toi là aussi tu redescends, va pas te faire chier au Vatican, elle est la seule qui t'écoutera, la grande Jaja.
Alors, on se retrouve donc dans l'émission consacrée municipale et on reçoit aujourd'hui avec Sébastien Claret la liste Faire entendre le camp des travailleurs, la liste Lutte ouvrière, Antoine Lémissier, Sandra Torremocha, respectivement seconde liste et tête de liste. Alors, on parlait juste avant la petite coupure musicale des questions environnementales. Alors, il n'y a qu'un pas de l'environnement au transport. Améliorer la qualité de l'environnement pour la ville de Toulouse, c'est favoriser les transports en commun. En tout cas, c'est une des définitions qu'on entend dans les propositions des différents candidats. Est-ce que c'est aussi votre position ? Là, pour le coup, l'action de la municipalité a son importance. Les orientations fortes données, ça n'est pas rien. Alors, qu'est-ce que vous feriez ? Ou est-ce que d'abord, ce qui a été fait va dans le bon sens ? Qu'est-ce que vous feriez ? Je vous pose plein de questions, là.
Oui, donc, d'abord... bien sûr, les transports collectifs, moi je suis pour. Voilà, aujourd'hui la société elle pousse à l'individualisme, au chacun pour soi, c'est pas une très bonne tendance. Donc bien sûr, les transports collectifs, il faudrait qu'ils soient le plus développés possible et gratuits. Mais là encore,
et gratuit.
Oui.
Ça c'est oui.
Mais là encore, le problème aujourd'hui dans cette élection municipale, c'est pas de choisir est-ce que on veut un métro de plus ou est-ce qu'on veut un tramway de plus.
On n'a pas d'avis. Vous.
Moi, mon avis, c'est qu'il faut surtout un emploi. Voilà. Et les travailleurs qui vont se prononcer sur notre liste, c'est ça qu'ils diront. C'est que même pour se déplacer, même pour aller, je sais pas, en ville, pour ses loisirs, bah, c'est une question de revenus, de possibilités, de disponibilité pour chercher un travail. Le problème de fond, c'est quand même d'avoir un emploi. Et aujourd'hui... c'est pas la question de savoir si c'est de cette façon-ci ou de cette façon-là. La question qui est posée, c'est la première occasion après la victoire de François Hollande à la présidentielle, le gouvernement socialiste, eh bien, il faut se prononcer pour infliger un désaveu sur la politique qui est menée.
J'allais vous dire, Sandra, bon, pour avoir un emploi, parfois on l'a pas à côté de chez soi, il faut donc pouvoir se déplacer. Donc, c'est pas rien quand même, le type de déplacement qu'on utilise.
Bien entendu, mais vous savez, pour compléter ce qu'a dit Sandra, les gens qui sont dans la galère, qui ont été déçus par, qui espéraient peut-être que la victoire de Hollande ce soit le changement comme il l'avait promis, bon, nous on n'y croyait pas deux secondes, mais enfin bon, des gens y ont cru, ont voté pour lui, hein, qui sont déçus, qui sont écœurés, et pour une bonne partie d'entre eux qui n'iront pas voter parce qu'ils sont déçus. Vous croyez qu'on va aller les faire voter en disant vous préférez un métro ou un tramway ? Moi je suis désolé, mais nous c'est pas ça qu'on va faire. Nous on va leur demander, dites ce que vous pensez de la politique qui est menée. Voilà ce qu'on va leur dire. Alors, bien sûr qu'on a un avis sur toutes ces questions. Bon, il y a comme Sandra l'a dit, nous on est pour les transports publics, oui, collectifs et gratuits, pas le thème de notre campagne. Alors, on va vous répondre, puisque vous l'avez dit, voilà, c'est pas le thème de notre campagne, et c'est pas là-dessus qu'on va essayer de convaincre les Toulousains de voter, ou de voter pour nous, même y compris. Parce que ça nous paraît être des questions qui sont secondaires et qui relèvent finalement assez peu quand même de l'autorité du maire. En France, depuis des années, on a favorisé la voiture et on favorise le camion. Et on favorise le camion sur le transport rail, par exemple. Ça, c'est pas du ressort de la mairie et c'est même pas du ressort des régions. Bien sûr que la région peut faire des petites choses, peut aider la SNCF, etc. un peu. D'ailleurs, on voit qu'ils sont en conflit en ce moment. Bien, ça montre bien la limite de ce pouvoir-là. Et la limite, quand vous avez les constructeurs automobiles qui imposent tout un tas de choses, de normes, etc., les pouvoirs du maire sont quand même très limités sur ces questions-là, et y compris sur les questions de transport. Je prends un autre exemple qui concerne pas directement Toulouse, même si c'est aujourd'hui devenu une grande métropole, mais la région parisienne, les transports dans cette région-là dépendent éminemment de l'État et de sa politique.
Alors, j'ai une question qui est toujours liée au transport, qui est posée là aussi par des travailleurs, notamment ce TCO. Donc, il pose la question notamment de quel mode de gestion pour le transport public urbain de voyageurs vous souhaiteriez voir mis en place. Il y en a actuellement. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous ? Donc, régie publique, DSP ?
Bien sûr. Bah, une régie publique, hein, voilà, c'est logique. Mais là encore, je pense que plus ça va et plus dans la campagne, on a tendance à me poser des questions sur les transports, sur les choses locales. Et moi, je trouve que quand même derrière tout ça, finalement, il y a le Parti socialiste qui est bien content qu'on discute pas de sa politique nationale et qu'on discute surtout que des aspects locaux, parce que ils assument pas justement ce qui se fait au niveau national, et pourtant c'est le même parti politique. Et même chose pour l'UMP. Hein. Ah non, on va pas surtout discuter de ce qu'a fait Sarkozy. Certes, il vaut mieux pas, les travailleurs l'ont encore bien en tête. Donc, mais discutons-en de ça. Ce sont des élections politiques et il faut que les travailleurs ils se saisissent de cette occasion pour donner un point de vue politique.
Il y a des partis qui font la distinction justement entre la politique au niveau national et la politique locale. C'est le cas, par exemple, du Parti communiste ici. Le Parti communiste a choisi de partir avec le Parti socialiste dès le premier tour, alors qu'on voit qu'au niveau national, il est beaucoup plus critique et qu'il se retrouve avec Jean-Luc Mélenchon dans le front de gauche. Est-ce que c'est pas possible pour vous de faire cette distinction-là?
Ben, c'est-à-dire autant la position locale. Vous trouvez que c'est
trop contradictoire.
Non, mais la position locale est très claire puisque c'est une alliance avec le Parti socialiste. Autant la position nationale l'est beaucoup moins. Justement, elle a pas ce mérite-là, mais je pense que dans le fond, elle revient à la même chose parce que
ils sont pas au gouvernement en tout cas.
Ils sont pas au gouvernement, mais ils sont pas non plus dans l'opposition. Donc voilà, c'est pas très clair. Voilà. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut une opposition qui soit très, très claire à ce gouvernement qui est au service du grand patronat.
Et puis je rajouterais qu'en ce qui concerne le Parti communiste, c'est pas seulement un choix local national. Il y a d'autres villes de la région comme Tarbes où ils font le choix d'être sur des listes séparées.
Bien sûr.
Bon, c'est des calculs politiciens quand même. Bon, les postes à sauver ou pas à sauver, les relations avec les appareils. Bon, ben nous, on n'est pas du tout là-dedans. Donc, on s'excuse, mais...
voilà. On s'excuse même pas.
Alors, parmi les compétences des maires, il y en a une autre aussi, c'est celle qui fait qu'il doit la sécurité, il doit assurer la sécurité de tous ses concitoyens. Alors, sur l'aspect sécurité, vous allez encore me renvoyer à la politique nationale, mais bon, je vais quand même vous poser la question. Qu'est-ce que vous feriez sur Toulouse? Alors, il y a un grand débat. Alors, peut-être que vous ne voudrez pas, vous n'allez pas vouloir vous porter sur le débat qui se fait jour à l'occasion des élections. Je l'entends. Ceci dit, bon, il n'existe pas moins qu'il y a des incivilités, des faits, des vols et tout sur Toulouse. Qu'est-ce que vous feriez pour améliorer la situation?
Je vais surtout dire que c'est assez étonnant de la part de Radio Mon País de nous amener sur ce terrain. Mais bon, enfin, effectivement, c'est un terrain sur lequel on peut toujours discuter. Mais en réalité, oui, comme vous avez dit, on va vous renvoyer sur le national. Vous savez, on peut mettre 3 ou 4 caméras ici ou là. Bon, le fond du problème, pourquoi il y a autant de violence? Pourquoi il y a des quartiers qui se dégradent? Pourquoi il y a des foyers de drogue? Parce que c'est souvent lié au trafic, hein, et à tout ce qui se produit. Mais d'où ça vient et quels sont, là encore une fois, les pouvoirs du maire? Les petites solutions techniques, etc., on n'y croit pas. Bon, nous, on pense que c'est un changement global qu'il faudra. Et là-dessus, si vous voulez, malheureusement, quelles que soient les solutions techniques, on peut mettre autant de flics qu'on veut, que ce soit de proximité ou pas. Bon, là, on a peut-être un avis. Hein, si le chômage continue d'augmenter, si la misère se développe, il y aura plus de trafiquants de drogue et il y aura plus de délinquance.
Travailler sur les conséquences, ça n'est pas possible.
Si, ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible. Ça n'est pas notre priorité. Et de toute façon, on n'est pas, nous, aujourd'hui, en situation de diriger la mairie. Donc, et le choix donc, qu'on propose à tous les uns, ce n'est pas celui-là. C'est celui de dénoncer les choses en amont.
Très bien. Vous voulez peut-être éventuellement rajouter quelque chose?
Oui, parce que, bon, on parle d'insécurité, mais pour moi, la première insécurité, elle est sociale, là encore. Et une société harmonieuse ne pourra être là que lorsque tout le monde aura du travail. Donc c'est pour ça que ça, on ramène...
Comme la question était utile.
Ben, la question est utile parce que vous avez pu préciser ce genre de choses.
Bien sûr. on ramène toujours à ça parce que c'est vrai que c'est la première préoccupation... d'ailleurs, c'est ce qui apparaît dans tous les sondages et c'est évident.
Jean-Claude, tu as peut-être une autre
oui,
question.
Oui, alors moi, on va aborder la question de la culture. Mm-hmm. Bon, alors sur la culture, autre compétence, bon, là, je vais voir ce que vous allez avoir à nous dire. Comment vous envisageriez-vous une politique culturelle de la ville? J'aurais une question d'ailleurs après dans les 5 questions que je pose à la fin concernant la culture, et plus particulièrement les intermittents. Mais comment vous envisageriez-vous la culture? Je ne sais pas, accès gratuit à la culture pour tous, pour que je... Voilà.
Bien sûr, bon, si on va discuter des intermittents, il le faut.
Je vous poserai une question simple tout à l'heure, mais d'accord. Si vous avez quelque chose à dire de particulier, vous pouvez le faire sur les intermittents. Mais sachant que ce n'est pas du ressort... bon, il peut être employeur, le maire, mais bon...
Oui, mais c'est vrai que justement, qui dit culture dit salarié quand même derrière, ou gens qui aimeraient bien être salariés. Et aujourd'hui, c'est surtout le règne de la précarité.
Oui. Encore que sur Toulouse, nous avons une... La particularité d'avoir un orchestre national du Capitole où nous avons des salariés, voilà. Donc c'est pas du fait du maire actuel, mais bon, ça a été poursuivi et même augmenté en termes de en nombre de salariés. Bon, ça c'est
en effet.
Je ne fais aucun bilan, je vous le dis parce qu'on l'a pris récemment.
Oui, de toute façon, après. Souvent, justement, c'est des faux débats qui sont posés sur la culture, c'est-à-dire il faudrait faire des choix. Alors, est-ce qu'il vaut mieux favoriser l'orchestre du Capitole ou la culture de quartier? Mais pourquoi il faut choisir? Pourquoi on est dans une société où la culture, elle se mesure en part de marché ou en profitabilité? c'est pour moi, c'est un petit peu voilà, le symbole, le signe qu'on est encore dans une société qui n'est pas tellement sortie de la préhistoire. Quoi. Voilà.
Sur la jeunesse et sport, par exemple, le fait que la municipalité ait repris à son compte Toulouse-Plage, alors qu'avant, c'était... comment vous jugez ça, vous? On peut parler de remunicipalisation, pour le coup, là, puisque bon, c'était délégué à une société d'événementiel qui avait renvoyé ça à côté du Paris Exposition. Ça a été repris, ça a été ouvert plus longtemps, il y a davantage d'activités. Je ne sais pas, n'y a-t-il pas une volonté d'aller vers quelque chose de gratuit, d'accessible à tout le monde, qui peut vous séduire?
Ben, ce qu'il y a de sûr, c'est que ces initiatives, elles marchent, et elles marchent beaucoup, parce que oui, la population, elle est en attente d'avoir le plus possible d'accès à différents loisirs, à la culture au sens le plus large possible. Et bien sûr, pour que tout le monde puisse y avoir accès, il faut que ça soit gratuit, ça va de soi. Donc oui, bien sûr, on peut avoir plein d'initiatives. Moi, je pense que justement, si on consulte la population et si on donne le pouvoir aux travailleurs, aux salariés, à la population de décider, eh ben, il y aurait énormément d'idées qui surgiraient dans le domaine de la culture comme dans d'autres. Et ça serait une autre gestion du pouvoir municipal.
Mmh. Et ça nécessite une démocratie beaucoup plus directe, on va dire. Oui. Il y a des tentatives de la part de différentes municipalités, je ne parle pas de démocratie directe, mais de démocratie participative ou consultative. Quel regard vous portez sur ces tentatives-là, en sachant que ce n'est pas facile du tout à mettre en place, puisque pas mal de tests ont été faits, notamment dans les quartiers les plus populaires ici à Toulouse. Et les gens ont quelques difficultés à descendre de leur immeuble, à discuter et à faire des choix. Quel regard vous portez sur cette démocratie qui tente à être un petit peu plus directe?
Oui, bien sûr. Nous, on pense que on est favorable à ce genre d'initiative. Et pour revenir à la question culturelle, enfin, pour la situer dans le cadre de la question culturelle, vous savez, le problème aujourd'hui, beaucoup d'associations souffrent. Elles souffrent parce que les budgets municipaux consacrés à la culture, je parle pas seulement pour Toulouse, hein, je parle de manière générale, ils sont en baisse parce que les dotations de l'État aux collectivités, d'une manière générale, que ce soit les associations d'ailleurs strictement culturelles ou les associations d'aide qui s'occupent de tel ou tel type de population en difficulté, elles sont aujourd'hui parmi les victimes de la crise, ces associations. Elles le sentent. On a dit, il n'y a plus d'argent. Alors pourquoi il n'y a plus d'argent? Nous, on préfère discuter de ça. Pourquoi il n'y a plus d'argent? Il est passé où l'argent? Bon, les 35 milliards, les 50 milliards que Hollande donne au patronat. Pourquoi il n'y a plus d'argent pour la culture alors qu'il y en a 50 milliards pour ceux qui sont les plus riches? Voilà. Alors pour nous, il y a un lien. Effectivement, nous, on préfère qu'il y ait de l'argent pour la culture.
Bon. D'accord. On arrive au stade des dernières questions. Donc, ils sont posés à toutes les listes. Le gouvernement ou certains membres du gouvernement ont récemment parlé de bloquer l'avancement et les primes des fonctionnaires. Alors, en tant que futur employeur, vous êtes pour ou vous êtes contre ?
Contre, évidemment. Hein, je suis pour augmenter tous les salaires, pas que ceux des fonctionnaires, toutes les retraites, toutes les allocations et surtout les indexer sur la hausse des prix. Parce que là encore, c'est la seule façon de ne pas perdre en pouvoir d'achat.
Le mariage homosexuel, si vous êtes donc première magistrate, vous assurerez ces mariages?
Alors, moi, je ne fais pas de promesses et je tiens toujours à dire la vérité. Donc, bien sûr, je ne serai pas élue, donc je ne serai pas dans cette position. Mais oui, moi...
Modo, la question, ça revient à dire, êtes-vous pour ou contre?
Voilà, moi, je suis pour l'union libre, mais voilà, tous ceux qui veulent se marier, ils doivent pouvoir le faire, évidemment.
Voilà, mariage pour tous, donc. Les intermittents du spectacle, nous en parlions tout à l'heure, qui participent à la vie culturelle de notre ville, ils sont en danger, hein, avec, dans le cadre de la négociation une édicte, après la déclaration du BNF, notamment sur les annexes 8 et 10. Ou votre avis sur la question?
Solidarité entière et complète avec les intermittents qui se battent, parce qu'évidemment, c'est une attaque inadmissible.
Bon. Le samedi 1er mars, des organisations syndicales avaient appelé à manifester, des partis politiques, des associations de droits de l'homme, de jeunesse, etc. Soutenez cet appel. Ils ont manifesté contre le coût du capital pour l'emploi, les salaires, la protection sociale et un autre partage des richesses. Comprenez-vous leur inquiétude et partagez-vous leurs propositions?
Bien sûr. J'y étais d'ailleurs à cette manifestation et je donne rendez-vous à la suivante le 18 mars.
Bon. Dernière question, les radios locales sur Toulouse, on parle de nous, excusez-nous. Hein. Quel projet pour défendre ces structures d'information pluraliste de proximité? On les aide comment? On les aide beaucoup?
On les aide surtout en leur demandant leur avis et en le suivant.
Bien, écoutez, merci. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission, Sébastien.
Voilà, cette émission s'achève.
Rien d'autre à ajouter.
Absolument. Enfin, vous avez peut-être quelque chose d'autre à ajouter.
Je vous pose pas la question pour le deuxième tour. Voilà, donc on va rester là-dessus.
Vous nous inviterez après le 23 mars.
D'accord, on fera ça.
Merci.
Très bien, merci à vous deux. Merci Sandra Torremecha, merci beaucoup Antoine Missier et merci à Thomas à la technique.